On parle pas souvent de recherche scientifique, surtout au nord de notre pays, dans l'Arctique. Et c'est un océanographe qui lance un cri du cœur, puis il est pas le seul là, chez les scientifiques, en disant « Le Canada laisse aller cette espèce d'image de bon partenaire, et surtout qu'on est un pays nordique, et une partie de l'océan Arctique est en territoire canadien. » On a de moins en moins d'équipements pour faire cette recherche-là. L'équipement que l'on a, c'est pas compliqué, on dirait qu'on a des vieux rafiaux. On parle du Hudson, qui est un bateau qui date de 1962. La Munsen, qui lui non plus est pas très jeune, là. On parle d'un bateau de quoi, d'une quarantaine d'années environ. Louis Fortier est océanographe et il est directeur de la science et de l'innovation de l'Institut nordique du Québec. Bonjour, Monsieur Fortier.
Bonjour.
Pour préciser, là, l'Institut nordique du Québec, c'est assez récent comme organisme quand même, hein.
Oui, ça a été fondé en 2014 par trois universités. Mais maintenant, on a 16 universités au Québec qui sont membres de l'Institut nordique du Québec. Donc, de ce côté-là, ça va très bien.
OK. Parlons justement là, des problèmes d'équipement que vous avez pour aller. On le sait, la garde côtière canadienne a des problèmes avec ses navires brise-glace. On dit que c'est une flotte qui est vieillissante. Vous, quand vous devez aller faire de la recherche scientifique, vous avez besoin d'équipements assez spécialisés également. Et pour les scientifiques, vous avez à peu près pas de ressources.
Oui, c'est une recherche qui est absolument stratégique pour le Canada, hein. Explorer l'océan Arctique, essayer de comprendre à quel rythme cet océan-là se transforme, comment les écosystèmes se transforment, aussi comment les populations qui habitent le long de cet océan-là sont affectées par ces changements-là, les Inuits en particulier. C'est tout des enjeux qui sont stratégiques pour le Canada. La plupart des pays arctiques, maintenant, déploient des brise-glaces de recherche modernes, hein, que ce soit les États-Unis, en fait, ou la Norvège, etc. Et il y a beaucoup de pays non arctiques, comme la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui font la même chose, c'est-à-dire qui construisent et qui déploient des brise-glaces ultra-modernes. Ici, au Canada, on en a un qui est, parmi les six grands brise-glaces qu'on a, il y en a un qui est dédié à la recherche. C'est la Munsen. Pour la moitié de l'année, on l'utilise pour faire de la recherche, puis l'autre moitié de l'année, on l'utilise pour les opérations de la garde côtière. Mais comme vous le disiez, le navire est vieux, il y a 39 ans maintenant, il est temps qu'on pense à le remplacer.
Mais c'est justement, donc, il est dédié à 6 mois par année à faire des travaux de déglaçage de la voie maritime. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec un bateau qui a une quarantaine d'années, puis c'est le meilleur allié que vous avez. Ça fait pic-pic un peu, non?
Ça fait un peu pic-pic, comme vous dites. Ça nous a permis de faire de la science, de la recherche absolument excellente, par ailleurs. Mais le bateau est vieux, il n'a pas été construit pour la science, et puis il est relativement petit. Okay. Donc, on pense que pour répondre à la demande, à ce moment-ci, la Munsen répond à peu près à la moitié de la demande. C'est-à-dire que le problème, c'est que tout le monde veut l'utiliser en été puis à l'automne, au moment où la banquise, la glace est moins importante dans l'Arctique et on peut accéder, en fait, aux mers arctiques canadiennes. Et la demande à ce moment-ci est à peu près 250 jours d'opération. Ouais. Puis on arrive à répondre à peu près à la moitié de cette demande-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que le Canada devrait s'équiper de au minimum là, un brise-glace de recherche moderne, puis peut-être continuer à utiliser la Munsen, ou idéalement de s'équiper de deux brise-glaces modernes qui seraient utilisées en été et à l'automne pour la recherche arctique. Et quand c'est nécessaire en hiver, on pourrait les utiliser aussi en Arctique. Et le reste du temps, ben ça pourrait être utilisé par la garde côtière pour ses opérations de déglaçage. Donc, le même modèle que ce qu'on a pour la Munsen à ce moment-ci, qui est une situation quand même gagnante-gagnante là, pour la garde côtière et puis pour la recherche. Mm-hmm. Mais de doubler, en fait, notre capacité de façon à répondre à la demande.
Monsieur Fortier, j'ai fait des entrevues récemment avec Mario Cyr, qui est un plongeur d'expérience, qui a fait des photographies exceptionnelles également en Arctique. Il nous a fait un constat et lui, il dit, depuis une vingtaine d'années que j'y vais, là, et je vois une dégradation. Et ceux qui prétendent que le réchauffement climatique n'est qu'une invention ne se sont jamais pointés dans les cercles arctiques parce qu'il y a une dégradation réelle des conditions de vie des populations locales. Et je parle animalière autant qu'humaine, là, mais aussi des conditions de glace. C'est un peu le même constat que vous en faites?
Ah, absolument. Moi, je travaille dans l'Arctique depuis une trentaine d'années. Les commandants des navires qu'on utilise aussi, c'est une transformation spectaculaire de ce que c'était. Il y a 30 ans, la banquise était présente en été là, à grandeur. Là, maintenant, les détroits, les baies, tout ça, tout l'ensemble de l'Arctique maritime canadien est transformé. Et on observe les mêmes transformations du côté continental, donc le pergélisol qui fond et tout ça. Les Inuits constatent la même chose. Si on pouvait amener tous les climato-sceptiques en Arctique, là, ils constateraient que c'est pas des farces, là, c'est en train de se produire.
Mais concrètement, ça change quoi, là, dans le plus simplement possible? Là, qu'est-ce que ça fait, l'effet directement de cette dégradation-là que vous avez constatée depuis une vingtaine d'années?
Ben, en Arctique, les impacts sont majeurs, là. C'est-à-dire que les écosystèmes sont en train de basculer vers des écosystèmes plus boréaux, plus subarctiques, si on veut. Ce qui transforme complètement la vie des gens qui habitent là. Ça ouvre aussi de nouvelles perspectives là, économiques. Ça permet en fait l'accès à des ressources naturelles, à la navigation de destination pour se rendre dans l'Arctique, mais aussi pour traverser l'Arctique. Donc, si on regarde pour l'ensemble du monde arctique, là, incluant l'Arctique américain, l'Arctique russe, etc., l'Arctique européen, les choses changent énormément. Puis l'Arctique devient un enjeu là, qui définit le début du 21e siècle. L'ensemble des pays là, se tournent vers l'Arctique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 25, dans 50, dans 100 ans. Mais là, si on regarde encore plus loin que ça, c'est aussi on peut utiliser l'Arctique comme ce qui se passe en Arctique là, pour nous prévenir. Hein. C'est un peu on le dit souvent, c'est comme le canari dans le puits de mine. Là. Ça nous dit à quel rythme l'ensemble de la planète va se réchauffer. Et ça, c'est extrêmement important là, pour essayer d'anticiper ce qui est en train de se passer, puis à quel rythme ça va arriver, puis à quel rythme il faut développer des stratégies pour s'adapter à ces transformations-là. Parce que l'ensemble de notre civilisation va être affectée par le réchauffement climatique et à un échéancier extrêmement court là, d'un point de vue géologique ou d'un point de vue historique. D'ici 2100, là, il va vraiment falloir s'adapter à une nouvelle donne.
Louis Fortier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps de nous sensibiliser sur la question. Il est océanographe et directeur de la science de l'innovation à l'Institut nordique du Québec. Donc, leur cri, ce qu'ils lancent comme appel, c'est au gouvernement fédéral de dire on n'a pas d'outils pour travailler, on n'a pas d'un bateau qui est convenable pour faire ce que l'on a à faire. Et on doit se fier maintenant sur des pays, l'Allemagne, on s'entend, c'est pas un pays arctique, là. Et le pays nordique, comme le Canada, doit se fier sur des travaux qui sont faits par des bateaux allemands ou de la Chine pour tenter de comprendre ce qui se passe dans notre propre secteur au nord. Il est 8h41.